Bon, chers amis, vous avez la chance, Madame l'ambassadeur, bonsoir. Vous avez la chance d'avoir aujourd'hui devant vous Éric Zemmour. Et lorsqu'on avait pris ce rendez-vous, eh bien, ce n'était pas encore arrivé, mais il a eu depuis lors un grand prix littéraire en France. Il a eu en mars dernier le prix du livre Incorrect qui est décerné une fois par an. Et c'est un livre qui récompense un ouvrage qui s'inscrit à contre-courant de la pensée unique et qui surtout bouscule le prêt-à-penser idéologique. Alors, je crois que le jury a fait un excellent choix. Éric Zemmour, vous le connaissez tous, il est évidemment diabolisé par certains, il est adulé par d'autres. Il s'invite chaque matin sur la première radio de France, c'est-à-dire RTL. Vous le voyez aussi chez Laurent Ruquier, où il ne manque pas d'humour, de pertinence, d'intelligence et de commentaires qui vont parfois dans tous les sens, mais enfin, c'est pour ça qu'on l'aime. Donc, il est trublion polémiste, il est sniper de l'émission
non,
de Ruquier.
Pas sniper.
On n'est pas couché. Il faut le reconnaître, c'est un combattant de l'inquisition de la pensée établie aussi dans ses chroniques du Figaro où il redonne à la polémique toute sa saveur. Il est diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris. Il détient à son actif une dizaine d'ouvrages qui s'y conjuguent témérité intellectuelle et liberté de ton. Et puis, s'il n'a pas peur de pourfendre les tabous, c'est qu'il est le D'Artagnan ou le Cyrano des formules vives et flamboyantes qui font toujours mouche. Il y a une chanson de Guy Béard que vous connaissez tous, c'est « Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté ». C'est ce que, cher Eric, souhaitent vos ennemis qui sont parfois horrifiés par vos propos qu'ils qualifient d'extrémistes. Mais en disant ça, je crois que c'est faire peu de cas d'un homme amoureux, transi de la nation et qui porte à la France un amour inquiet et vigilant. Maintenant, j'ai terminé. Je vous passe la parole.
Merci beaucoup. Non, mais on va aller à l'essentiel. Est-ce que vous voulez... je ne suis pas le maître d'œuvre. Mais est-ce que vous voulez poser des questions? Est-ce que vous voulez que j'explique très vite la ligne du livre? Voilà. Écoutez, c'est assez à la fois simple et complexe. C'est-à-dire que je revisite l'histoire de France depuis la chute de l'Empire romain, que j'explique selon une espèce de la destinée manifeste de la France. Vous savez, les Américains parlent de destinée manifeste pour leur pays. Je pense qu'il y avait aussi une destinée manifeste de la France qui était de reconstruire, de remplacer l'Empire romain et de donner la fameuse paix romaine, je mets avec tous les guillemets parce que c'était une expression qui a fait florès pendant des siècles, de la paix romaine à l'Europe. Et c'est-à-dire d'unifier autour d'elle le continent européen, d'être assez grand, assez puissant pour pouvoir pacifier l'Europe et rassembler le continent européen derrière elle. C'était ça le projet français, c'était d'après moi le projet français qui porte ce pays pendant des siècles. C'est un projet qui arrive quasiment à son but au début du XVIIe siècle, après les victoires de Richelieu, de Mazarin et le fameux traité de Westphalie qui donne les clés de l'Europe à la France. Et le paradoxe incroyable de cette histoire de France, c'est que vous voyez, je vous ai donné 1648, c'est le traité de Westphalie. La France domine l'Europe, on peut dire. Et en 1651, vous voyez, là, la concomitance des dates est extraordinaire, les Anglais prennent ce qu'on appelle l'acte de navigation. C'est-à-dire que, à partir de cette époque, toutes les marchandises qui vont en Angleterre, venant de l'Amérique ou venant de l'Inde, doivent être sur les bateaux anglais. Et c'est un acte de vraiment de protectionnisme incroyable, d'ailleurs qui déclenchera une guerre avec la Hollande que les Anglais gagneront, et que à partir de ce moment-là, si vous voulez, il y a deux projets de domination de l'Europe et de domination du monde, qui sont le projet continental par la terre de la France, donc le projet romain que j'appelle le projet romain, et le projet de ce que j'appelle la mondialisation, la première mondialisation bien avant la nôtre, qui est la mondialisation par l'Angleterre à partir du XVIIIe siècle et plus encore le XIXe siècle, qui est la mondialisation par la mer, par la marine, par le commerce, avec l'Empire des Indes, etc., et avec la puissance de la marine, de la navy, de la marine anglaise. Et ces deux projets vont s'affronter. À partir des années 1680, l'Angleterre se sent assez forte pour attaquer la France dans une espèce de nouvelle guerre de 100 ans qui va durer jusqu'en 1815, où il y aura des victoires, des défaites de part et d'autre, où la France perdra plus souvent qu'à son tour, où elle aura l'impression parfois de revenir dans le jeu. Elle perdra la bataille de la mondialisation, par exemple en 1763, quand elle perd le Canada et l'Inde, vous voyez. Ça, c'est vraiment la grande défaite française. Et moi, je vois, si vous voulez, les fameuses guerres de la Révolution et de l'Empire, qu'on présente comme des guerres de conquête de la France. En fait, ce sont des guerres défensives. C'est-à-dire que la France, moi j'ai une expression, c'est comme au poker, vous savez, quand on met tapis et qu'on joue son va-tout pour essayer de gagner la partie. Eh ben, la France, les guerres de l'Empire, c'est un tapis. C'est-à-dire qu'elle met tous ses atouts sur le terrain, elle tente le tout, pour essayer de rattraper le temps perdu et pour essayer d'arriver à son but. Et le paradoxe assez extraordinaire, parce que cette histoire est très, très étonnante, c'est que cet espace que je définis à peu près, vous voyez, c'est assez simple comme espace idéal français, c'est-à-dire que c'est l'hexagone d'aujourd'hui, plus la Belgique, plus la rive gauche du Rhin, vous savez, la Rhénanie, toute la rive gauche du Rhin, plus le nord de l'Italie. Et vous savez que cette région-là, c'est ce que les géographes aujourd'hui appellent la banane bleue, c'est assez amusant, et c'est le cœur du dynamisme économique européen depuis le XIIIe siècle. Donc, si vous voulez, il y avait la rencontre entre l'économie, le stratégique et le politique, et même le mythologique, j'allais dire, puisque c'est les Gaules romaines qui étaient là rassemblés comme au temps de Jules César. Vous voyez, il y a cette rencontre-là. Et ce territoire-là a été réalisé sous domination de la France pendant les guerres de la Révolution et de l'Empire. C'est à peu de choses près, l'Empire de 1810. Et c'est ça que les Français perdent en 1815, et qu'ils ne vont avoir de cesse d'essayer de retrouver après la guerre 14. Vous voyez, après même dans les années 60, vous remarquerez que l'Europe des 6, l'Europe des fondateurs, des premiers pays, c'est-à-dire vous, nous, vous voyez, avec les Italiens, les Allemands de l'Ouest, ça correspond exactement à ce territoire-là. Donc c'est pour ça que la France y était aussi à l'aise, c'est pour ça que le général de Gaulle dominait. Et il en avait conscience, vous savez, il avait dit à Perfit, grâce à l'Europe des 6, nous retrouverons la position que nous avons perdue à Waterloo. Donc tout ça est très lucide, tout ça est une histoire qui court sur plusieurs siècles. Et évidemment, le problème, c'est qu'à partir du moment où l'Europe s'élargit, ce n'est plus ce que j'appelle moi la France. Vous voyez, c'est-à-dire au minimum l'Europe française. Et donc, les Français s'en détachent. D'où les votes contre la Constitution européenne, etc. Les Français ne se reconnaissent pas dans cette Europe-là. Mais les élites françaises, si vous voulez, n'ont jamais renoncé à ce rêve impérial. Simplement, quand elles ont compris, c'est-à-dire après 1815, que la France, décidément, n'arriverait plus à réaliser ce rêve romain, eh ben, elles se cherchent un nouveau maître pour le réaliser. Alors ça a été l'Allemagne. C'est ce qui explique pour moi la collaboration en 40. Drieux de La Rochelle disait « Que nous est notre patrie pour nous qui avons rêvé d'empire ?» Vous voyez ? Et c'est d'ailleurs les pacifistes venus de la gauche après la guerre 14 qui vont grossir les rangs des collaborateurs. C'est pas des fascistes comme on l'a dit. C'est pas vrai. Le gros des troupes vient des gens de gauche, pacifistes, qui disent que l'Allemagne donne la paix romaine à l'Europe. Vous voyez ? Puisque la France ne peut plus, eh ben autant que ce soit l'Allemagne qui le fasse. Et puis après la guerre, on a les États-Unis, ou alors l'URSS, ça dépend dans quel camp on se retrouve. Et à chaque fois, on cherche l'Empire. Et puis aujourd'hui, il y a l'Europe. Vous voyez, les élites françaises fonctionnent toujours de la même façon. Et simplement, il y a un décalage croissant entre ces élites et le peuple français. Et voilà, je finis là-dessus, vous verrez, vous lirez dans le livre, parce que ça n'arrête jamais. C'est-à-dire que je pense aujourd'hui qu'on vit une machine à remonter le temps. C'est-à-dire que avec la chute du mur de Berlin, on a, si vous voulez, détruit l'Europe de 45. Hein, l'Europe de 45 qui coupait l'Europe en deux, l'Allemagne en deux. Vous voyez, bon. Et puis maintenant, avec la fin de la Yougoslavie et de la Tchécoslovaquie, ça, c'était des pays qui avaient été créés en 1918, au traité de Versailles. Donc, vous voyez, c'est l'Europe de 18 qu'on détruit. Et puis maintenant, on voit bien, avec ce qui se passe en Belgique, on voit bien ce qui se passe en Espagne, la Catalogne qui veut prendre son indépendance, avec ce qui se passe en Italie, avec la Ligue du Nord qui ne veut plus payer d'impôts pour le Sud, vous voyez, c'est quand même pas rien. Avec même, vous savez, le Royaume-Uni, avec l'Écosse qui veut profiter du pétrole de la mer du Nord pour prendre son indépendance, on voit les États qu'on croyait solides, hein, construits au 19e siècle, au 18e siècle, se fragiliser et être pris par des tentations sécessionnistes. Vous voyez, c'est dans cette Europe-là que nous allons vivre. Et vous voyez, ce retour en arrière, moi, me fascine et explique un peu tout ce livre. Vous voyez, on arrive au bout de l'histoire. On repart, si vous voulez, à zéro, surtout dans une France qui, elle, vit alors une espèce de chute de Rome, avec une difficulté croissante à assimiler ses propres étrangers. Vous voyez, c'est comme les barbares, entre guillemets, au temps de Rome, c'est-à-dire ceux qui n'étaient ni grecs ni romains. Hein, moi, je suis un barbare romanisé, je dis toujours ça. on a de plus en plus de mal à assimiler nos étrangers, nos barbares, entre guillemets. Et c'est, du coup, on sent bien la fragilité française, elle est là. Vous voyez, les autres pays européens, ils sont fragiles par les tentations régionalistes et sécessionnistes. Et la France, qui n'a pas cette histoire-là, qui n'a pas la même histoire que les autres, elle est grosse de guerre civile, de guerre de religion, comme toujours dans son histoire. C'est ça qui est très frappant. Nous sommes la France, le pays des guerres civiles et des guerres de religion. Voilà.
Bon, le débat dans la salle. Qui se lance? Première question. Fin.
Mais c'est très bien.
Non, ça, c'est pas croyable, ça. Alors, monsieur.
Oui, j'ai un chapitre entier sur les Belges. Ah ben, écoutez, c'est... Ah mais parce que pour moi, c'est vraiment important. Vraiment, je ne sais pas du tout par démagogie que je vous dis ça, parce que vous avez vu, j'ai écrit un chapitre là-dessus, et voilà, ce n'était pas pour venir à Bruxelles, même plaisir que j'ai d'aller chez Filigrane. Non, je vous explique pourquoi. C'est important pour le passé, c'est important pour l'avenir. C'est important pour le passé parce que la Belgique est l'épicentre du rêve français. Toutes les batailles perdues ou gagnées par la France, les plus importantes de son histoire sur 1000 ans, se sont déroulées en Belgique. Rocroi, Gemap, Waterloo, même jusqu'à la guerre 14. Non, toutes les guerres. On peut reprendre même les guerres au Moyen-Âge. C'était déjà ça. C'est inouï, mais c'est comme ça. Mais ce n'est pas... Vous comprendrez pourquoi, évidemment, puisque je vous explique. Et voilà, que c'est évidemment l'objectif de l'histoire française. Bon. Donc ça, c'est pour le passé. Et la création même de la Belgique, j'ai une formule dont j'étais très fier, hein, j'ai compris ici qu'il fallait que je sois un peu moins fier de cette formule, la Belgique est pour moi la RDA de la France. C'est-à-dire que c'est la preuve que la France a perdu, vous voyez, en 1815. Comme la RDA, donc la division de l'Allemagne en deux, était la preuve que l'Allemagne avait perdu face aux Anglo-Américains et aux Russes. C'est ça que je voulais dire. C'est ça l'explication de la comparaison. Et donc... on a créé la Belgique. Si vous voulez, la question flamande est un sous-produit de la Belgique. Si la France avait gagné, il n'y aurait pas de question flamande. Tout le monde parlerait français. C'était d'ailleurs en bonne voie, si j'ose dire. Comme en Alsace. Non, mais c'est vrai, en plus, c'est même pas une provocation. Hein. Franchement, en revanche, je fais des analyses parfois prospectives, et là, je peux me tromper. Mais là, vraiment, je ne risque rien. Je crois vraiment que si Napoléon avait gagné, en 1850, tout le monde parlait français. C'était réglé. D'ailleurs, en 1850, après la défaite de Napoléon, la bourgeoisie flamande parlait français. Et ce n'est que le clergé, le petit peuple flamand, et cornaqué par le clergé flamand qui détestait la France, parce que la France était l'antichrist, comme en Espagne, comme en Russie. Vous savez, n'oubliez jamais qu'en Espagne, par exemple, c'est les troupes françaises qui mettent leurs chevaux dans les églises. Et ça scandalise, vous imaginez, les curés espagnols qui connaissaient encore l'Inquisition. Hein. C'est Napoléon qui a supprimé l'Inquisition en 1810. C'est vous dire où ils en étaient. Donc, c'est pas rien. Donc, le clergé flamand a combattu le français victorieusement. Et la question flamande aujourd'hui, la question linguistique, ne se pose que parce que la France a perdu. Et donc, ce que je veux dire, c'est que, on va voir, soit les optimistes ont raison, qui disent, la querelle linguistique est aussi vieille que la Belgique, et ça continuera comme ça 100 ans. Moi, je ne pense pas, je vous ai expliqué pourquoi. C'est-à-dire que je pense que la Belgique est prise elle-même. Cette question est finalement mineure parce qu'elle est prise dans un maelstrom historique. Je vous ai expliqué la machine à remonter le temps. Et elle est prise en plus par la mondialisation d'aujourd'hui qui rend inutiles les États-nations et donc qui aggrave les tentations sécessionnistes. Vous comprenez bien que plus un État-nation est inutile, puisqu'il est faible face aux vrais puissants financiers, plus les régions riches, l'Italie du Nord, la Catalogne, se disent « Mais qu'est-ce qu'on va payer pour ces ploucs ?» Vous voyez, ils parlent des Italiens du Sud, ils parlent des Espagnols du Sud, vous voyez, puisque l'État-nation ne résout plus leurs problèmes économiques. hein, puisqu'ils n'ont plus les moyens. Donc les autres se disent, bah, on dégage, nous on prend nos bagages et on s'en va. Vous voyez, c'est ça. Et je pense que la Belgique, c'est le même phénomène. C'est-à-dire que les Flamands se disent, oh, ça va, les Wallons, ils nous coûtent cher, on dégage. Puisque l'État belge ne sert plus à rien. Vous voyez, c'est ça la logique. Je pense que la Belgique est prise dans cette logique-là. Voilà.
Monsieur, je vous donne le micro.
Hervé Lejeune, bonjour, bonjour monsieur Desmaux. Vous avez parlé d'une Europe mosaïque, en quelque sorte. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez jouer un peu au prophète et nous dire ce que vous pouvez voir dans l'avenir de cette...
Je pense que l'Europe aujourd'hui... Je vous ai dit que l'Europe des Six, c'était l'Empire de Napoléon, entre guillemets, vous comprenez ce que je veux dire. Aujourd'hui, si je continue mes références historiques, c'est plutôt le Saint-Empire romain-germanique. Avec... d'ailleurs des états différents. Vous souvenez, le Saint-Empire romain germanique, il y avait des royaumes, il y avait des évêchés, il y avait des duchés. Voilà, c'est la même chose. Entre Malte et l'Allemagne, franchement, il n'y a rien à voir. Vous voyez, c'est des choses... On comprend bien tout de suite que c'est pas la même... on voit bien qu'on n'est pas dans le même monde. Hein. Bon, donc c'est ça l'Europe aujourd'hui. C'est un Saint-Empire romain germanique. Je pense que l'Allemagne, aujourd'hui, a fait une croix sur l'Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, son intérêt... Et sa stratégie, c'est de défendre sa position dans la mondialisation. Une espèce de stratégie que j'appellerais hanséatique. Vous voyez, c'est-à-dire une grande hanse, avec l'important, c'est le commerce. Hein, commerce mondial, et sa place est importante là. Bon. L'euro, je pense aussi que l'euro ne tiendra pas. C'est-à-dire que je pense que l'euro, là, a des contradictions trop importantes. On n'a pas le temps d'en parler, mais je pense qu'il va exploser. Et que... l'Allemagne, de toute façon, va reprendre son Deutsche Mark. Pour l'instant, elle n'y a pas intérêt, parce que grâce à l'euro et grâce à notre incapacité à dévaluer, elle détruit la concurrence française et italienne. Vous voyez ? Mais parce qu'on aurait pu combattre en dévaluant. Bon, donc pour l'instant, c'est son intérêt, elle le garde. Mais jusqu'où, je n'en sais rien. Et je pense que ce Saint-Empire romain-germanique va exploser, surtout si les pays eux-mêmes explosent. Vous voyez ? Donc je ne sais pas. On pourrait prétendre le contraire d'ailleurs. Je pense que le projet de la Commission de Bruxelles était d'encourager ces sécessions régionalistes pour pouvoir chapeauter, vous voyez, tout ça. Je pense qu'elle ne réussira pas non plus à faire ça. Elle est trop faible. Vous voyez, les institutions européennes de Bruxelles ne représentent pas grand-chose. Ils ont construit l'Europe sur le marché. Sur la domination du marché, sur la concurrence fiscale, sur l'absence de souveraineté. Vous voyez, c'est une construction par le vide, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, c'est comme ça que je vois. Mais encore une fois, je ne suis pas prophète.
Monsieur.
En lisant votre livre, j'ai l'impression que votre dernier chapitre est le plus important de tous, donc la chute de l'Empire. Enfin, ça m'a paru...
Non, c'est pas le plus important, je vous répondrai après.
Donc ça justifie un peu votre titre. Donc la mélancolie vient surtout du fait que les nouveaux barbares d'aujourd'hui n'arrivent plus à s'assimiler, comme dans la France que vous aimez.
Non, vous méprenez. On me dit souvent ça, hein, c'est pas, vous n'êtes pas le seul à vous tromper, mais c'est pas grave. Ce chapitre dernier, d'abord, je ne l'avais pas prévu initialement, alors que j'avais prévu le titre mélancolie. La mélancolie française, c'est la mélancolie de ne pas avoir réussi sa destinée d'empire romain. Voilà, c'est ça. Maintenant, le dernier chapitre s'est imposé à moi. Je vais vous dire, je n'avais pas prévu de l'écrire. Il s'éteint parce que c'est plus de l'histoire, c'est une espèce de projection, vous voyez, dans l'avenir. Il s'est imposé à moi parce que je trouvais que la France retrouvait des éléments qui avaient jalonné son histoire. Comme, par exemple, la domination démographique sur l'Europe. Vous savez que dans 20 ans, la France sera 80 millions et l'Allemagne 60. Vous voyez ? Aussi le risque de guerre civile. C'est-à-dire que je pense, effectivement, que la concentration ethnique dans des régions, dans des départements, va finir... Par poser de graves problèmes à la France. Et on risque des affrontements, des troubles, voire une guerre civile. Vous voyez, c'est ça. Ça s'est imposé parce que je trouvais que l'histoire recommençait. Et d'ailleurs, certains critiques de mon livre, et vraiment des plus intelligents et des plus élogieux, me font ce reproche-là, en me disant « Mais Zemmour croit que l'histoire se répète sans cesse, etc. » C'est pas que je pense que l'histoire se répète sans cesse, c'est que je vois, en travaillant sur l'histoire de France, les mêmes choses recommencer sans cesse. Vous voyez ? Et donc je me dis, là je revois des éléments qui ont déjà existé dans les siècles précédents. Je vois par exemple, vous savez, à La Rochelle, qu'est-ce que c'était là, le siège de La Rochelle, vous savez, dans les Trois Mousquetaires avec D'Artagnan, qu'est-ce que c'était le siège de La Rochelle par Richelieu? C'est parce que les protestants voulaient une espèce de ville indépendante à la hollandaise, où ils auraient pu pratiquer leur religion protestante et où ils auraient chassé les catholiques, et ils voulaient une indépendance quasiment. Et donc Richelieu, vous voyez, sur cette base d'indépendance religieuse, a fait la guerre à La Rochelle. Vous voyez, c'est une histoire qui revient sans cesse. C'est pour ça que j'ai fait ça.